Chers amis, Hachem Alechem, Tiahio, Leore, Chemin, Tobim, Shanim, Neemin, nous poursuivons notre étude de Parashat Vaigash. Zenu Beshem Adonai, Ose, Shamaim, Vaaretz. Donc, dans cette Parasha, après le long discours de Yehuda, qui s'adresse directement à Yosef, en sachant pertinemment que Yosef comprend ce qu'il dit, puisqu'il lui dit, Kikamocha Keparo, que tu es toi-même comme Pharaon, et Pharaon doit savoir toutes les langues. Donc de même, Yosef comprend pertinemment ce que Yehuda lui dit. Yosef se dévoile à ses frères. Voyomer Yosef et les Rabani Yosef. Il leur dit, je suis Yosef. Aod Abihai, est-ce que mon père est encore vivant? Donc, et les frères n'ont pas pu lui répondre. Kinivalo, ils étaient choqués. Ils sont totalement désemparés. Alors, il leur dit, voyons, Yosef et Nehav, Geshuna et la Vigashu. Donc, ils se sont approchés de lui. Voyons, Merani Yosef, Ahaychem, je suis Yosef, votre frère que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne vous lamentez pas sur cela. Ne vous tourmentez pas de cela. Qui m'écharté motihena, que vous m'avez fait descendre en Égypte, car qui m'écharté moti, vous m'avez vendu ici. Qui l'imehya, parce que Kadosh Baruch Hu m'a envoyé ici de telle sorte que je puisse vous subvenir à vos besoins pour la vie, pour poursuivre, pour la pérennité de la vie, pour subvenir à vos besoins. Qui zéchnatayim, alors il leur explique qu'il y a encore 5 ans de famille. Vaishalehen yelim lifnechem lasum lachem sheritim. Kadosh Baruch Hu m'a envoyé ici de telle sorte que je subvienne à vos besoins pour vous faire vivre. Ve'ata. Donc c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Lo atem shelachtem otiena. Ki Elohim. Yassimeni le Av, et je suis le Av, le responsable, je suis le Av le Parao, ou l'Adon le Chol Beto, ou Moshel Bechol Eres Mitzrayim, je domine, je maîtrise, je gouverne toute la terre d'Égypte. Dépêchez-vous, ve allo et la vie, allez chez mon père, et vous lui direz, Komar Bincha Yosef, Samani Elohim, l'Adon, l'Éternel m'a placé maître de l'Égypte. Descends vers moi, rejoins-moi, et tu t'installeras en Eretz. Mais qu'il calti autra, cham, et je subviendrai à tes besoins là-bas. Car il y a encore 5 ans de famine, etc. Donc c'est le point essentiel ici, c'est qu'il se dévoile à ses frères et qu'il les invite à pas tenir compte des circonstances du passé, comme si que l'acte qu'ils ont fait n'est pas l'essentiel. L'acte n'a été que le support ou le vecteur d'un projet divin de telle sorte que c'est pratiquement eux qui l'ont placé à la tête de l'Égypte. Et il leur dit de faire descendre Yaakov en Égypte. Et c'est ça l'essentiel de l'idée qui nous concerne, qui nous intéresse. Pourquoi Yosef veut absolument que son père descende en Égypte, alors qu'il aurait pu très bien le laisser en Eretz Israël, faire lui-même le voyage, le rejoindre pour un instant, pour quelque temps en Eretz Canaan, lui éviter de descendre en Égypte, qu'il aille le rejoindre, le rencontrer, et qu'il subvienne à ses besoins en Eretz Canaan. Et ça, c'était possible, de la même manière que plus tard, il va... c'est-à-dire que si Pharaon va lui interdire, il lui a dit, voilà que plus tard, il va lui permettre. On ne peut pas dire que Pharaon ne l'aurait pas autorisé à agir de la sorte. Et quel intérêt il y a, pourquoi il y a un besoin absolu que Yaakov descende en Égypte. Et quand Yaakov descend, il ne descend pas seul, il descend avec toute la famille. Pourquoi ne serait-il pas resté, lui et sa famille, en Eretz Canaan, et Yosef aurait pu très bien subvenir à ses besoins de cette manière-là. Donc il y a une idée ici profonde. Et Chacham nous dit, « Raou, Yaakov, Avinu, l'Ired, Béchal haute chez le Barzel. Yaakov Avinu devait, était destiné même à descendre l'Égypte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Même attaché, enchaîné, il serait descendu en Égypte. C'est l'idée qui est mentionnée ici. Alors, pour comprendre ça, il faut revenir à l'idée des rêves. Le conflit fondamental qu'il y a entre Yosef et ses frères. Pourquoi les frères ne l'ont pas accepté en tant que Yosef quand il fait les rêves, quand Avinu le place, qui ben zikunim hulo, il est le fils qui est le prolongement de Yaakov. Donc il est au-dessus de ses frères. Et ça, les frères ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas admis. C'est ça le sens de la tunique qui est un être passible. C'est la tunique de celui qui est la continuité des frères. Il est au-dessus de ses frères. Et ça, les frères ne l'ont pas admis, ne l'ont pas accepté. Et c'est pour cela qu'ils l'ont condamné à mort. Et en fin de compte, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Et Chachamim nous disent, Kadosh Baruch Hu leur a dit, vous le vendez. On va voir que comment, de cette manière-là, les rêves vont se réaliser. Et quand bien même plus tard, ils vont regretter, et quand Yosef va commencer à mettre la pression, et ils vont se dire, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on nous accuse? Alors, il les a accusés d'espionnage, de Yervat Haaretz Batem Lirot. Donc pourquoi il les accuse d'espionnage? Pourquoi plus tard il les met dans une situation trouble et ils vont dire ça nous arrive parce que nous avons vu notre frère se lamenter et implorer et nous n'avons pas eu pitié de lui. C'est-à-dire que là, dans la situation la plus catastrophique dans laquelle ils sont, dans la remise en question des frères, il n'est pas question de remettre en question le fond de l'affaire, le fond de leur décision. Dans le fond, ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne regrettent la forme que ça a pris. Parce qu'ils disent, notre frère nous a imploré, il a imploré notre pitié, nous n'avons pas eu pitié pour lui. Voilà, c'est pour cela que ça nous arrive. Et ça signifie qu'ils n'ont pas fait une véritable teshuva. Nous avons dit à une autre occasion que la tchouva, pourquoi Yosef n'a pas informé son père? Donc Yosef est resté environ 10 ans chez Potiphar, comme dirigeant de la maison de Potiphar, puis il est resté 12 ans en prison, et après il a pris le pouvoir en Égypte. Donc il est resté 5 ans, 7 ans gouverneur d'Égypte, les 7 premières années d'abondance. Donc, tant qu'il n'y avait, alors là, à ce moment-là, il aurait pu informer son père. Et là, il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Parce que s'il avait informé son père, à ce moment-là, la tchouva aurait été imposée au frère. Et la véritable tchouva, c'est que quand celui qui a fauté répare de lui-même, prend conscience de l'erreur qu'il a faite, que ça ne lui soit pas imposé. Donc, il est mis dans une situation de remise en question. Donc ils doivent rétablir ce qu'ils ont réhabilité. Ils doivent se réhabiliter. Donc ils doivent les dommages causés doivent eux-mêmes doivent réparer les dommages causés. C'est ça le sens qui est Ervat Haaretz Batem Lirot. Quand ils descendent tous, ils les accusent d'espionnage. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Les frères doivent se poser un véritable problème. Voilà que les années d'abondance n'ont eu lieu qu'en Égypte, tel que Yosef l'explique à Pharaon dans ses rêves. Cependant, quand il parle des 7 années de famine, là, il lui indique que la famine va frapper toute la région. Alors, il y a une véritable question qui se pose pour les frères, qui sont les Bnei Torah, ceux qui sont en Ovdé Hachem, qui habitent en Eretz Israël, qui sont dans la Terre Sainte, etc. Donc, comment est-il possible que eux n'ont pas eu, il n'y a pas eu en Eretz Israël ou en Eretz Canaan d'abondance particulière pendant les 7 premières années? L'abondance particulière était seulement uniquement en Égypte. Et alors que la famine frappe partout. Alors eux, ils sont dans la famine totale, ils n'ont pas quoi manger, terrible, un manque de tout. Ils sont sur le point une famine qui risque de les affecter à tel point qu'ils risquent de mourir de faim. Alors qu'en Égypte, il y a une abondance extraordinaire. Donc ils doivent se remettre en question. C'est-à-dire, comment c'est possible que l'Égypte, qui est qualifiée de l'empire de la Touma, poussé à son paroxysme, possède une telle abondance, une telle beracha, comment cela est-il possible? Et c'est ça l'idée qu'il leur dit. Il leur dit, vous êtes venus voir, espionner Ervat Ares, le fond, la nudité derrière, c'est-à-dire vous les dévoiler. D'où vient? Vous vous posez la question, pourquoi vous n'avez pas, vous, prétendument être les tzadikim, votre père le tzadik et vous les tzadikim, vous n'avez pas de quoi vous nourrir. Alors que ici en Égypte, prétendument être un pays de Touma, c'est en vérité c'est ce que c'est, l'idolâtrie poussée à son paroxysme, et là il y a la bracha. Alors, Ervatares, vous êtes venu chercher quelle est la cause, quel est le zchout qu'il y a, de quoi cela se fait, comment se fait-il une chose pareille? Ervatares, donc il les invite à réfléchir sur ce point-là. Après, il est dit à plusieurs reprises que il a remis l'argent dans le sac, il aura remis l'argent, mais dans un sac, il a mis l'argent à l'ouverture du sac. Alors c'est Lévi qui ouvre son sac en chemin la première fois, et là il trouve son argent dès qu'il ouvre le sac. Alors que les autres, c'est seulement, voyez, Amérikim et c'est que lorsqu'ils vont vider les sacs. Alors pourquoi Lévi? Parce que Lévi, c'est le premier qui a parlé. Et le Remez, il est Bepiam Tarto, c'est lui qui a parlé le premier. Etc. Donc il a voulu l'éliminer. Donc c'est lui qui a ouvert le premier la bouche. Plus tard, Binyamin va être sanctionné. Il va lui mettre la Gevia, la coupe, dans le sac de Binyamin. Et là, Bepi Amtahat Binyamin. Et qu'est-ce que se passe-t-il? Il y a marqué qu'il a commencé à fouiller. Alors il les accuse d'avoir volé. Et ils vont ouvrir les sacs, il va commencer à fouiller les sacs. Donc, non, il va commencer à fouiller du plus grand au plus petit. Donc, en vérité, c'est quoi le remèze? Le remèze, il est qu'on va fouiller, la raison, on cherche. Vous voyez, Hapès. Hapès et Yerushalayim Banerot. C'est comme si on fait Bidikat Hametz. On cherche les Tserar. On cherche où est la faute. Qui a fauté? De qui ça vient? Quel est le responsable? Pour faire, tu vois, il faut chercher le responsable. Et quelle est la nature du péché? Quelle est la nature? Quelle est la nature de celui qui a péché? Donc, on commence de chercher du plus grand. Mais, il commence à chercher du plus grand. Bagadol, Ehel Bagadol, mais Bakaton qu'il a, il va chercher du plus grand au plus petit. C'est comme si on cherche la raison s'il y a une catastrophe qui s'abat sur le peuple, il faut chercher la raison et la cause depuis le plus grand de la société, celui qui est en haut de la structure sociale, jusqu'au celui qui est au plus bas, le plus grand au plus bas. Et il va trouver la cause chez le plus petit. Alors si la cause, elle est chez le plus petit, donc la Gevia, en vérité, c'est la responsabilité du plus grand. Si le plus petit a fauté, c'est la responsabilité du plus grand. Et alors, quelle est la valeur, quel est le sens de la Gevia? La Gevia, c'est valeur numérique 85, c'est P. Là aussi, le reproche qui est fait à Binyamin, c'est que lui, Binyamin, savait et il s'est tu. Il n'a pas parlé, il n'a pas suscité la tchouva de ses frères. Lui, est comme si que Binyamin est associé. Donc ça veut dire que les frères auraient dû, en voyant la gravité de la situation, auraient dû faire un débat, un forum de réflexion. Qu'est-ce qui nous arrive? Et ils n'ont pas fait véritablement ce forum de réflexion. Ils n'ont pas cherché à savoir quelle est la cause, se remettre en question. À tel point que, comme nous l'avons dit, qu'à un moment où ils disent, nous avons regretté, certainement nous aurions dû être plus, plus miséricordieux, avoir plus de pitié envers notre frère. Mais dans le fond, il ne regrette pas. Et c'est ça le sens qu'il demande à son père de revenir. Il dit à son père, il dit, dites à mon père de venir s'installer en Égypte. C'est-à-dire que là, il les met dans une situation où Yaakov, c'est-à-dire il les amène vers lui. Il les amène vers lui, là, sous sa domination. Sous sa domination, de telle sorte qu'ils prennent à ce moment-là véritablement conscience. Et le père va venir, Yaakov va descendre en Égypte, va s'installer en Égypte, Yosef va subvenir à ses besoins. Et c'est de cette manière-là, si on veut, que les frères vont être obligatoirement sous la coupe de Yosef, totalement. Ce qui n'était pas possible s'ils étaient restés en Eretz Israël. S'ils étaient restés en Eretz Kenaan, à ce moment-là, Yosef subvient à leurs besoins, mais la prise de conscience de la domination de Yosef n'aurait pas été totale. Et là, c'est cette idée-là qui se poursuit jusqu'à la fin. Et cette idée-là, à savoir, il nous reste à savoir, à comprendre, est-ce que véritablement les frères vont se repentir sur le fond? Est-ce que Yosef leur pardonnera enfin, finalement sur le fond? Et il semble que non, il semble que tout ça reste en suspens. Tout ça reste en suspens, la réparation ne se fera qu'à la fin. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les martyrs, Asara, Arugé, Malchut, on va dire que les Asara, Arugé, Malchut vont être sanctionnés, vont périr par le martyr à cause de la faute de Mechirat Yosef, comme le Midrash le dit. Et les Meraglim aussi fauteront en conséquence de cette faute. Donc on voit que la faute, elle reste en suspens sur le fond. La problématique reste en suspens jusqu'à ce qui va causer le schisme à le malchut de David, le malchut de Shlomo à sa mort va être scindé en deux royaumes. Donc c'est tout ça reste en suspens, l'acceptation de Yosef et par les frères va rester en suspens jusqu'à la rédemption. C'est les deux notions qui seront transmises à travers Be'ita Hashana, la Geoula doit se faire en son temps ou peut être avancée. Si elle est avancée, alors c'est Mashiach Ben Yosef qui va venir, qui va introduire, qui va venir en premier pour préparer la venue du Mashiach Ben David. Mais si cela ne se fait pas, alors il viendra le temps du Mashiach Ben David en fin de parcours, à la fin. Donc, c'est-à-dire que tant que cette relation complexe entre Yosef et ses frères ne s'est pas arrangée, alors en apparence, le fond du conflit, le fond du problème reste en suspens et doit être amené à réparation. C'est le sens. Et le Rama Mipano dit, que, en fait, Yosef, et c'est ce qu'il leur dit, il dit, c'est pas vous qui, vous m'avez vendu, vous, en Égypte, ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Ça veut dire que Yosef, il reste vendu. C'est-à-dire que lui-même, à l'apogée de son pouvoir, il conçoit qu'il a été vendu, qu'il reste un esclave. Et il sera ainsi tout au long de l'histoire, jusqu'à sa mort. De telle sorte que c'est les frères qui dominent Yosef de cette manière. C'est ça ce qui va nous dit le Rama Mipano, qui va permettre à Israël de sortir d'Égypte, de telle sorte, c'est-à-dire que les Égyptiens étaient redevables à Yosef, comme si que Yosef possédait l'Égypte et que toute la population était à son service, étaient ses esclaves, de la sorte que lui, il les possède. Plus tard, ça va se renverser, que les Égyptiens vont asservir Israël de manière... c'est-à-dire que c'est un droit qu'ils vont appliquer sans, qui n'est pas un droit, qui vont s'accaparer ce droit, mais ils resteront eux toujours. Donc, c'est-à-dire que l'esclavage d'Égypte, il n'est pas quelque chose qui est fondamentalement inscrit dans le droit. C'est l'inverse, puisque alors c'est ce qui va permettre de telle sorte que Am Israël, à travers Yosef, possède l'Égypte. Donc le droit d'Égyptien sur Israël ne peut pas se faire de manière totale et infinie. Donc c'est ça qui, cette ouverture-là, cette possibilité-là de se détacher du joug de l'esclavage que l'Égypte impose à Israël, n'est possible que du fait que Yosef a été l'esclave de ses frères. Et c'est ça ce qui va permettre la sortie. Mais la réparation du fond du conflit entre Yosef et ses frères ne se fera pas là, il se fera à la fin des temps. Et c'est le conflit, il faut qu'on nous devons comprendre véritablement que le conflit qu'il y a entre Yosef, les enfants de Léa et les enfants de Rachel, c'est le même conflit qu'il y a entre Yaakov et Esav, puisque les enfants de Léa sont les enfants que Esav aurait dû avoir avec Léa. Donc ce même conflit-là, il se perpétue. Et quand est-ce que le conflit va s'apaiser, va se résoudre? C'est que quand Esav, il fera tshuva, donc à la fin des temps. Donc c'est cette idée-là. Donc c'est le conflit de Machiav ben Yosef, Machiav ben David, c'est en vérité une réparation de l'incompréhension qu'il y a entre les frères. Et Ratzon Kadosh Baruch Hu, il nous illumine de sa Torah. Qu'il illumine la Torah, que nous sachions dire des livrets Torah amitiés, de telle sorte que nous fassions, nous honorions correctement la Torah. C'est ce qui est dit ici à ce sujet. Vous raconterez, Vigatem la vie et kol kevodi bemitzrayim. Vous raconterez à mon père toute l'honneur, le kavod que j'ai en Égypte. Qu'est-ce que c'est le kavod? Le kavod, en kavod, nous disent les Rishonim. Le Baal HaMaor, dans son introduction, dit que En Kavod, le Kavod s'adresse Ela à Neshama Sichlit. C'est l'âme, le Nefesh HaSichlit s'appelle Kavod. C'est-à-dire que quand on veut faire Kavod, il ne s'agit pas d'un Kavod illusoire de ce monde, les honneurs, les titres, les apparences. Il s'agit d'un Kavod Kevodi, c'est-à-dire le Kavod amiti, réel. Qui va traduire non pas la personne de Yosef, mais son âme, ce qu'il est en fondamental. Ce qu'il est fondamentalement, il est le Yesod. Le Kavod que l'Égypte lui donne traduit ce qu'il est véritablement. Ce n'est pas quelque chose qui est emprunté ou illusoire. C'est la vérité, la réalité de ce qu'il est. On donne l'exemple suivant. Il y a marqué un Chacham qui est mort. La Gemara dit que il est mort, ils ont fait une yeshiva al-Kivro. Ils ont fait une yeshiva sur sa tombe. Et on dit, regardez le kavod qu'on lui a fait. Donc, quel est le kavod? C'est-à-dire qu'en étudiant la Torah, alors le chacham qui est mort, il est de la poussière, il ne peut pas étudier. Mais alors, on étudie à côté de sa tombe. Okay, on lui fait kavod. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'étude de la Torah que l'on fait, que font les vivants autour du mort, indique que ce que le mort était pour l'essentiel de l'ambition, de l'être de ce monsieur qui a disparu, était justement la Torah. La en kavod de la Torah, c'est le sens en kavod de la Torah. Et le kavod, nous dit Rishonim, Rabbeinu Bahia, et. Le Rabbi Zecharia Lévi, dans l'Agdama du Baal HaMaor, il dit que le Kavod est appelé Nefesh Asichlit, c'est-à-dire que la Neshama, ce qui traduit ce que l'homme est, l'essence même de la personne. C'est ça le Kavod. Et qu'est-ce que Yosef? Yosef, c'est le Yesod, celui qui nourrit les autres. C'est celui qui est au-dessus des autres, non pas pour en tirer gloire, mais pour permettre aux autres de s'épanouir. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.